partager son écran. Et ça, c'est toujours une aventure de partager son écran. Toujours une aventure. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez le visage de Saint Jean? En tout cas, l'évangéliste, peut-être le disciple bien-aimé, on ne sait pas trop. Mais enfin, une peinture admirable du Gréco.
Oui. On le voit.
Non, mais j'y arrive pas. Maintenant, il faut que j'arrive à faire défiler mon PowerPoint, il veut pas. Ah, ça, c'est toujours un problème. Voilà. On entre dans l'évangile Saint Jean. C'est un pari, c'est une gageure. Ça fait longtemps que dans le groupe des animateurs, on se disait il faudra un jour avoir le courage d'aborder l'évangile selon Jean. Voilà, alors le jour est venu et c'est bien clair que ça n'est qu'une introduction. Et que je ne peux pas vous présenter tout l'évangile de Jean, enfin, je vais laisser tomber plein de choses, simplement essayer de vous donner quelques clés de lecture. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes à toute allure, puisque vos animateurs de groupe vont vous envoyer aussitôt, je ne sais pas quand, d'ici demain ou après-demain, le détail, la conférence, tout ce que je vais dire et écrit, rédigé, vous allez le recevoir et vous pouvez aussi demander le PowerPoint. Donc ne vous épuisez pas à écrire. Simplement, si je vais trop vite ou s'il y a des choses incompréhensibles, manifestez-vous. Et puis de toute façon, il y aura un temps de questions après. Voilà. Je vais procéder en quatre étapes, quatre parties, et vous aurez l'impression, d'une part, que ça se recoupe, et d'autre part, que je me répète. Je vais vous expliquer pourquoi vous allez avoir cette impression de ressassement un peu. Elle dit toujours la même chose. Oui, ben, l'évangile de Jean dit toujours la même chose. Voilà, c'est ça le problème. Alors, mon premier point, ça sera de dire que l'évangile de Jean, pour moi, est le meilleur exemple parmi les quatre, de ce que c'est que le genre littéraire évangile, un genre littéraire à part. Et l'évangile de Jean en donne un peu la quintessence, c'est ce qu'il y a de plus marqué comme genre évangile. Pourquoi? Parce que dans les récits, ce qui est narratif, on dit toujours, il y a soit une intrigue de résolution, il y a un suspense, on attend quelque chose qui se dénoue, que le personnage va-t-il réussir, va-t-il mourir, etc. Et puis l'intrigue de révélation, qui est au fond la mise au jour de l'identité d'une personne ou d'un groupe ou d'un événement, etc. L'évangile est essentiellement un genre littéraire avec une intrigue de révélation, c'est-à-dire qu'il est tout entier fait pour, par le récit, essayer de découvrir et de faire découvrir au lecteur l'identité inouïe, indicible autrement, d'une personne. L'évangile de Jean est souvent opposé. Je ne sais pas s'il faut les opposer, mais c'est souvent ce qu'on fait. Aux trois autres, les synoptiques, en disant que c'est un évangile spirituel, autrement dit, une méditation à distance, et ça c'est vrai, à travers plusieurs étapes, et probablement assez tard dans le premier siècle, sûrement vers la fin du siècle finalement, mais en plusieurs temps, une méditation sur, ben, au fond, la figure de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que, au cours des temps, à mesure qu'on rumine le passé, on peut dire de celui-là. Au fond, au lieu d'opposer Jean aux évangiles synoptiques, moi je dis, il faut voir dans Jean l'état le plus abouti de ce genre évangile construit sur une révélation. Alors, la révélation dans l'évangile de Jean, elle est massive. Elle est massive. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle est dès le début. C'est-à-dire qu'on vous assène dès le début les choses les plus lourdes, et dit en bon français les plus invraisemblables. Au verset 18, à la fin du prologue, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu ou un Dieu, fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a expliqué. C'est tellement gros qu'une partie de la tradition manuscrite a supprimé le deuxième Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, un fils unique qui est dans le sein du Père, nous l'a expliqué. Mais l'autre grosse partie de la tradition garde ce Dieu fils unique. Voilà. Et alors, il y a deux dieux, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le problème. On est en plein dans une espèce d'affirmation, finalement, quelque part inassimilable dans un régime de monothéisme absolu. En même temps, ce Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a expliqué. On a là un drôle de verbe. C'est le verbe qui a donné l'exégèse en français. Normalement, c'est mon métier, mais je ne suis pas le Fils unique, donc je ne vous fais pas l'exégèse du Père. C'est un verbe qui veut dire expliciter. En réalité, littéralement, c'est conduire sur le chemin pour découvrir. Voilà. On vous annonce qu'il va vous conduire sur le chemin pour découvrir Dieu. Alors, l'évangile commence par le prologue que vous connaissez tous, qu'on ne travaillera pas parce que je trouve que c'est trop compliqué, qu'il faut attendre un bon moment et peut-être avoir bien travaillé sur l'évangile de Jean pour se pencher sur le prologue, mais enfin, vous le savez peut-être par cœur. Et ce prologue qui est quand même stupéfiant, qui quelque part fait écho à Genèse 1, au commencement. Le prologue de Jean reprend le au commencement de Genèse 1 en grec, dans la Septante, en arché, dans un principe. Voilà, c'est plutôt au principe qu'au commencement. Enfin, on voit bien que voilà, on se place au fond dans ce début du début. Hein. Et on va dire que dans ce commencement, la parole de Dieu et la parole qui est tournée vers Dieu et la parole qui est Dieu, advient dans la chair humaine, c'est-à-dire dans l'histoire des hommes et dans l'humanité, comme un événement qui sauve les humains. Là aussi, vous avez une affirmation qui en elle-même est trop lourde pour être trop grosse, pour être accueillie comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et c'est pour ça que je dis que je vais beaucoup me répéter, parce que l'évangile de Jean, en fait, pose ça massivement, quelque chose de trop gros, de trop lourd au début, et puis il va passer son temps par des moyens littéraires divers, on va le voir, des rencontres, des discours, un récit de passion, des récits de Christophanie, etc., d'essayer de tourner autour de cette affirmation et d'essayer, sinon de, alors l'expliciter, conduire le lecteur sur un chemin pour qu'il la comprenne mieux. Mais on a aussi un peu l'impression qu'à force de faire baigner le lecteur là-dedans et de lui faire ressasser ça, on lui fait, je ne parle pas de lavage de cerveau, ce n'est pas exactement de ça qu'il s'agit, mais quand même, on finit par vous en imprégner et ça vous dévoile quelque chose. En ce sens, il y a bien une révélation. Si je reprends le parallèle toujours fait, qu'il faut quand même faire avec les synoptiques, on va bien sûr dire que c'est le même témoignage, c'est le même événement qui est au point de départ de ces récits et de ces méditations. C'est le même témoignage, c'est le chemin de Jésus de Nazareth, de la Galilée à Jérusalem, vers de sa naissance ou de son apparition sur la place publique, vers la croix et ce qu'on appelle l'élévation dans la gloire, ce qu'on peut appeler résurrection aussi, où il est révélé Messie, Christ et Fils aimé de Dieu. Les différences sautent tout de suite aux yeux. Et ces différences, je les prends d'abord dans ce qu'il y a de plus scientifique peut-être de travail sur les évangiles. On a pu montrer, et je crois que c'est clair, que Jean utilise des sources historiques et des sources orales et même écrites différentes de celles des trois évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, dont vous savez que, en gros, aujourd'hui, on considère qu'ils ont deux sources de base, l'évangile de Marc ou un premier état de l'évangile de Marc et la source des paroles, la source dite des logias, que ce sont en gros les deux sources avec d'autres apports qui permettent aux trois évangélistes de monter leur récit. Jean utilise des sources différentes et des sources qui lui sont propres, certainement pas le récit de la Passion, encore que il y a des éléments qui lui sont vraiment propres. Et on a pu voir que certaines indications de lieu, notamment à Jérusalem et en Judée, car c'est un évangile très centré sur Jérusalem, sont plus précises et plus confirmées par l'archéologie, ou en tout cas semblent vraiment avoir oui, quelque chose dans l'archéologie qui dit c'est probablement ça que Jean vise, comme par exemple la fameuse piscine de Bethzatha, qui était reconnue comme une piscine de guérison et de bain sous l'égide de divinités païennes. Avant le Dieu d'Israël, après peut-être avec le Dieu d'Israël. Mais enfin, c'est bien de cette piscine-là qu'il s'agit. La vallée du Cédron, le fameux lithostrotos, le pavement, hein, sur lequel Jésus paraît comparé devant Pilate. On ne sait pas exactement où ça se passe, mais on a des éléments comme ça. Voilà. Donc, des sources propres. Et dans le récit lui-même, il y a des différences très fortes, avec comme peut-être première différence. Cette façon de présenter Jésus, alors On voit bien que c'est subtil. Jésus apparaît dans la mouvance de Jean-Baptiste dans les trois évangiles synoptiques. Et même Luc fait de Jésus le cousin par le sang de Jean-Baptiste, une façon de montrer le lien, ou en tout cas de créer un lien. Chez Jean, c'est encore beaucoup plus net, et visiblement, ça repose là aussi sur des sources plus, peut-être plus proches d'une histoire passée. On voit vraiment que Jésus était d'abord un disciple de Jean-Baptiste, et que comme Jean-Baptiste, il a baptisé dans le Jourdain, et qu'il a fait aussi son propre petit groupe de disciples à partir de là, à tel point qu'il y a à un moment donné une bagarre, ou en tout cas. Des disciples de Jean vont lui dire, ouais, le Jésus qui te suivait, maintenant le voilà qui baptise et encore plus que toi. Voilà. Chapitre 3, Jésus se rendit avec ses disciples en Judée. Il séjourna avec ses disciples et il baptisait. Et Jésus faisait des disciples et baptisait plus que Jean. Et puis on voit qu'à un moment donné, et ça va être sans arrêt la façon dont l'évangile procède, il y a une correction à ce qui a été dit ou une explication. Mais ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, c'était ses disciples. Bon, à un moment donné, Jésus arrête de baptiser, et comme on veut se distinguer des groupes baptistes, on dit non, non, c'est pas lui qui baptisait, c'était les autres. Voilà. En tout cas, c'est bien dans cette mouvance-là qu'il apparaît, et il s'en sépare en ne baptisant plus du baptême d'eau. Mais, après ce que dit Jean-Baptiste, il va baptiser dans l'esprit, en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'autre qui naît. À partir de là, les synoptiques simplifient le récit, et vous donne un récit sur un an. En gros, le ministère, ce qu'on appelle la mission de Jésus, se déroule sur un an, avec une montée à partir de la Galilée et des détours dans la Décapole, vers Tyr, avec par exemple la géographie de Marc, qui montre que visiblement, il n'y a plus mis les pieds depuis longtemps, ou il n'y a jamais mis les pieds. Parce que c'est un peu n'importe quoi. Mais enfin, bon, il fait des détours vers là-haut, de l'autre côté de la mer de Galilée, et ensuite une seule montée à Jérusalem pour la Pâque, qui se termine mal. La géographie de Jean, en tout cas sa façon de gérer les choses, est différente. Il y a plusieurs allers-retours de Jésus entre la Galilée, la Judée et Jérusalem, avec au moins trois fêtes de Pâque à Jérusalem, et aussi un bon nombre de fêtes juives pour lesquelles Jésus monte, notamment la fête des tentes, hein, et la fête dite de la dédicace, c'est Hanouka, la fête actuelle pour Noël de la purification du temple, au chapitre 7 et au chapitre 10. Voilà. Donc, on est beaucoup plus dans cette ambiance de la vie juive à cette époque-là, autour des années 27-30, et on voit bien que la mission de Jésus s'étend sur plusieurs années et qu'il va sans arrêt à Jérusalem, avec évidemment la montée de l'hostilité autour de lui. On a quelques épisodes qui sont parallèles aux synoptiques, mais déplacés dans l'évangile de Jean. En particulier, la purification du temple, le moment où Jésus chasse les marchands du temple en renversant les tables d'échangeurs, etc., qui, pour les trois évangiles synoptiques, est le déclencheur de son arrestation. À ce moment-là, il y a vraiment atteinte au pouvoir des Sadducéens et peur de la part du pouvoir romain, d'une émeute populaire. Eh bien, Jean le place au début, place cette purification du temple tout au début comme un programme, et tout de suite, il en donne la signification dans la bouche même de Jésus: détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Alors les autres disent, c'est pas possible avec le temps qu'on a mis à le construire. Évidemment, l'évangéliste commente, il parlait du temple de son corps. Donc c'est l'annonce, au fond, de la mort et la résurrection qui est placée là au début, au chapitre 2. On va retrouver quelques autres épisodes parallèles aux synoptiques, mais toujours avec des développements, quand ils existent, des développements et des significations finalement assez différentes. La guérison du fils d'un fonctionnaire royal qui est vraiment différente, le partage des pains qui chez Jean est le long discours sur le pain de vie, qui occupe tout le chapitre 6 en plusieurs morceaux avec des rajouts, la marche sur la mer qui a aussi une fonction différente, l'onction à Béthanie qui n'est pas placée au même endroit, etc. En fait, la particularité de l'évangile de Jean pour cette première partie du ministère de Jésus, les trois allers-retours entre ou les trois montées à Jérusalem, ce sont des scènes de rencontres. Et parmi ces scènes de rencontres, beaucoup de plusieurs sont parfaitement originales. Alors, on parle des récits de signes parce que dans l'évangile synoptique, il est question d'actes de puissance, traduit en français, mal traduit miracle. Ce qu'on ne trouve pas chez Jean, il s'agit de signes. Alors, je les énumère, il y a en gros sept signes. Le récit des noces de Cana, que vous ne travaillerez pas, vous allez me dire pourquoi? Ben parce que vous ne pouvez pas tout faire. Donc, vous allez voir qu'ensuite, pour vos cinq réunions ou six réunions, on a choisi, j'ai choisi certains textes et pas d'autres, et que vous regretterez de ne pas avoir celui-là. Ben voilà, il faudra inventer d'autres réunions ou une autre série de travaux sur Jean pour le faire. Il faut choisir. La rencontre avec la femme samaritaine, alors vous n'allez pas la travailler non plus, parce que en première année du CIF, non, en deuxième année du CIF, pour certains l'année dernière, c'est le texte que vous avez travaillé en premier. Au début du cours d'ecclésiologie. Je suis pas sûre que vous en souvenez, mais tout le monde, là, à un moment, enfin, dans les dernières années, mais ça fait quand même plusieurs années, tout le monde l'a travaillé au début du cours d'ecclésiologie. Alors, ça aussi, on va laisser, non pas tomber, mais laisser de côté pour ce parcours-là. Le fils du fonctionnaire guéri, le paralytique de Bethsaida, le signe des pains, l'aveugle né, Nicodème, évidemment, avant. J'ai oublié qu'il faut mettre. Et le relèvement de Lazare. Là-dessus, vous travaillerez la rencontre avec Nicodème. Évidemment, l'aveugle né et le relèvement de Lazare. Voilà, trois grands signes. La caractéristique de ces rencontres de Jésus, qui sont plus des dialogues, et surtout des dialogues, que des événements, que des choses concrètes ou que des gestes, c'est surtout des dialogues, c'est qu'ils sont suivis, c'est immédiatement suivi d'un enseignement de Jésus lui-même ou sur Jésus, fait par l'évangéliste, on va dire, hein, on en reparlera, par celui qui est le narrateur, qui fait son commentaire et même parfois un commentaire en nous. À un moment donné, immédiatement après avoir entamé et poursuivi le dialogue avec Nicodème, Jésus se met à dire nous. Nous, alors c'est la communauté qui parle, voilà, c'est la communauté. Dans tous ces signes, ce qui est clair, c'est que, là encore, je suis dans le parallèle avec les synoptiques, on a un renversement de la fonction de la foi. Dans les évangiles synoptiques, c'est la foi qui permet l'acte de puissance ou le miracle. Jésus dit à celui qui vient de guérir ou qui vient d'être guéri, ta foi t'a sauvé. C'est la foi du père de l'enfant épileptique qui sauve le petit. Hein, c'est la foi du père. Le père qui dit, j'ai la foi, mais augmente-la, augmente-la. Voilà. Dans les synoptiques, c'est comme ça. Du coup, à Nazareth, comme il n'avait pas assez de foi, Jésus ne put pas faire, pas faire des actes de puissance, ne pas pu relever, guérir, etc. Chez Jean, c'est le contraire. Le signe permet à celui, à l'interlocuteur, d'avancer dans la foi. Généralement, il part ou d'une ignorance totale, ou d'une foi élémentaire, ou d'un croire ou une attente à un Messie d'Israël. Et il s'agit de le faire passer à un autre niveau, reconnaître dans celui qui lui parle, en Jésus, la gloire de Dieu à l'œuvre. Alors on va revenir, hein, sur tous ces mots. Il y a plein de mots que je vais reprendre après. Voilà, ça c'est vraiment l'ensemble des signes au début dans cette première partie de l'Évangile. Et ces signes vont jusqu'au chapitre 11, 12, et à la suite, le chapitre 13 ouvre immédiatement sur la Passion, puisque c'est le chapitre qui raconte, autrement que dans les synoptiques, mais malgré tout, après le lavement des pieds, le dernier repas de Jésus. Donc si vous voulez, en 12 chapitres, tout ce ministère, toute cette mission de Jésus qui s'étend sur 3 ans est présente et ramassée. Et on débouche très vite sur la passion. Pourtant, en tout cas sur le dernier repas de Jésus et le départ de Judas, enfin les choses se nouent à ce moment-là. Pourtant, le récit même de la passion ne commence qu'au chapitre 18, 18-1. Donc vous avez 14, 15, 16, 17, où vous avez une espèce d'arrêt du récit pour les grands discours de Jésus lui-même et cette série de discours qui sont superposés. Alors, qu'est-ce qui permet de passer par-dessus, finalement, de faire le pont? Eh bien, c'est que dans la première partie de l'Évangile, le récit de la passion et de la crucifixion est sans arrêt annoncé. sans arrêt annoncés, avec des signes, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Et ce récit de la passion et de la crucifixion est sans arrêt annoncé, anticipé, comme une élévation de Jésus. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas été élevé. Voilà, donc on est préparé et puis ça s'arrête. Qu'est-ce que viennent faire les discours 14, 15, 16, 17? Ils viennent confirmer une identité incroyable, avec une intimité inouïe de Jésus avec le Père, qui a été déjà, au fond, révélée à chaque interlocuteur à travers les différentes rencontres qui précèdent. Voilà, les discours viennent confirmer. Alors, vous ne travaillerez pas les discours parce que, ben, on ne peut pas tout faire. J'ai pris quelques exemples pour vous montrer que ça parcourt tous ces discours. Celui qui m'a vu a vu le Père et moi, nous sommes un. Ça, c'est déjà dans les premiers discours, 14 et 15. Je suis venu du Père et je suis présent dans le monde. De nouveau, je laisse le monde et je vais auprès du Père. Chapitre 16, le Père et moi, nous sommes un. Chapitre 17, qui reprend ce qui a été dit plus tôt. Au fond, d'un bout à l'autre, c'est toujours la même révélation qui est proposé à la foi et au lecteur qui essaye de s'en emparer, ben, comme les personnages, comme les disciples qui écoutent Jésus et qui est là à se débattre avec ces affirmations. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans cette première partie. Je vais revenir sur les détails, hein. Mais je voulais vous montrer que Jean, c'est une sorte d'épure de ce qu'est un évangile. Le récit, au fond, révélatoire de l'identité de Jésus dans le quotidien des gens qu'il a rencontrés dans ses discours, et un récit qui est fait par des témoins, et des témoins qui le présentent comme un travail de mémoire. Tout cela, c'est un travail de mémoire, c'est pour ça qu'il y a toujours un enseignement accroché à chaque récit, pour dire, mais voilà ce qu'on comprend quand on se souvient. C'est des témoins qui attestent que, après coup, ils ont compris que le projet de Dieu, le projet d'attente des promesses d'Israël s'accomplit dans cet homme-là, ils invitent le lecteur à le croire. C'est-à-dire, au fond, chez Jean, tout est révélé d'avance. C'est le témoin qui parle, hein, ou des témoins parlent, et il se situe explicitement, au contraire des autres évangélistes, dans le temps de la résurrection, pour faire, de le temps d'après la résurrection, pour faire œuvre de mémoire et faire avancer le lecteur ou la communauté, ou d'avancer eux-mêmes dans cette découverte d'une identité divine de Jésus. Alors, encore quelques. Vous retrouverez sans arrêt dans le texte le vocabulaire de la mémoire et du souvenir. Lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi et ils crurent. Il y a deux références parce que les mêmes phrases reviennent à plusieurs reprises dans l'évangile. C'est pour ça que ça ressasse. Il répète au chapitre 12 ce qu'il a déjà dit au chapitre 2. Il va le répéter encore au chapitre 20. Jésus a opéré bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que vous ayez la vie en son nom. Tout ceci pour vous proposer un plan de l'évangile pour qu'ensuite vous puissiez vous débrouiller dedans. Alors, le plan de l'évangile, il y a un encadrement avec deux morceaux qui sont certainement ajoutés plus tardivement. De toute façon, cet évangile est fait de morceaux emboîtés, hein, et de couches superposées. Un prologue, 1 à 18, qui est probablement le texte le plus récent de l'évangile, des gens qui pensent que c'est écrit à non seulement à la fin du 1er siècle, mais déjà au 2e siècle, dans les conflits avec la gnose, au début du 2e siècle. Puis le livre qu'on appelle le livre des signes, je vous ai dit ces rencontres, on dit aussi le livre de l'heure, mais je vais revenir sur les signes et sur l'heure, qui commence donc en 1,19 et se termine soit à la fin du chapitre 13, soit à la fin du chapitre 14. Pourquoi? Parce que 13 se conclut par un discours. Après le lavement des pieds, le repas, la sortie de Judas, Jésus commence un discours qu'il va continuer en 14. Et c'est à la fin du chapitre 14 qu'il va dire aux disciples, partons d'ici. En fait, ils ne partent pas du tout. Ils ne partiront qu'au chapitre 18. En 18, vous avez, il sortit avec ses disciples. Les trois chapitres du milieu, alors, soit vous repartez de 15, soit vous reculez à 14, mais jusqu'à la fin de 17, ce qu'on appelle le livre de la gloire, c'est les quatre grands discours de Jésus, le quatrième étant ce qu'on appelle souvent la grande prière. On dit aussi la prière sacerdotale de Jésus. Je ne sais pas si elle est sacerdotale. Enfin, c'est le chapitre 17, le plus compliqué de tous. Un autre bloc qui vient ensuite, et ça repart au chapitre 18, ça y est, il sort, le bloc de la Passion, 18.1 à 19.42, puis le chapitre 20, les Christophanies ou manifestations du ressuscité. Voilà, donc vous avez un prologue et un épilogue qui clôt, 21, qui est en plus. Il rattache l'évangile et la communauté johannite à l'Église qui est en train de devenir, là aussi on est à la fin du siècle, hein, la grande Église, l'Église dite de Pierre et de Paul, c'est l'épilogue qui le rattache. Entre les deux, on peut dire qu'il y a trois blocs, le livre des signes, les grands discours et puis le récit de la Passion avec les manifestations du ressuscité 18, 19, 20. Voilà, ça pour vous donner un cadre et vous permettre de travailler. Je poursuis. Ça va, il n'y a pas de hurlements, je ne les entends pas parce que vos micros sont fermés. Est-ce que je vais trop vite? Non, j'entends pas d'hurlements, je poursuis. La deuxième partie, je reviens sur ces rencontres, parce que vous allez en travailler au moins trois, sinon quatre. Le livre des signes, qu'on appelle aussi le livre de l'heure. Mais je vais vous essayer de montrer que l'heure, elle va aussi plus haut. Donc, bien sûr, c'est, je l'ai dit et je le répète, le déploiement d'une identité appelant à des réponses de foi. Y a-t-il là-dedans une progression? Y a-t-il une tension? Ça va être un peu la question qui va traverser de plus en plus grande. Est-ce qu'on va avancer vers quelque chose? Ben oui, vers la passion, bien sûr, mais comment? Je commence d'abord par dire que c'est fortement encadré par quoi? Eh bien, parce qu'il sera l'objet du deuxième livre, le livre de la gloire. Dans ce livre des signes, la question de la gloire est omniprésente. C'est ça qui rend l'évangile de Jean assez difficile, c'est que tout est toujours déjà là. La gloire est au début et la gloire est à la fin. Elle est tout au long de ce livre, dit livre des signes. Dès le récit de noces de Cana, il est dit, tel est le commencement, l'arché, donc on renoue avec le prologue, on revient en arrière, voilà, c'est là vraiment que ça commence. C'est le commencement des signes que Jésus a fait. Il a manifesté sa gloire et ses disciples ont cru en lui. Alors, il a manifesté sa gloire. S'il l'a fait tout de suite, pourquoi après, il faut attendre? Et on a au chapitre 12, ses disciples ne comprirent pas d'abord, mais quand il fut glorifié, alors ils se souvinrent. Il va y avoir un malaise avec cette gloire, parce qu'elle est manifestée dès le début, et après, elle est reportée à plus tard, et elle est comprise ou vue, ou on entre dedans lorsqu'on se souvient. Avec dans le chapitre 12, le grand moment, on va dire, de la gloire échangée entre le Père et le Fils, Jésus qui dit, Père, glorifie ton Fils, or une voix vient du ciel et dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai à nouveau. On baigne, si vous voulez, dans la gloire. Ça m'a posé beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si pour vous, la gloire, c'est évident. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec la gloire. Il y a bien la gloire du Bernin à Saint-Pierre de Rome. Mais à mon avis, c'est un peu une catastrophe. Enfin, je dis des horreurs. Bon, qu'est-ce que c'est que la gloire? Alors, je fais une petite digression, si vous voulez bien, parce que vous allez la rencontrer partout, hein, la gloire. Avec un excursus sur la gloire. Voilà, petite digression. Il me semble bien, alors je le tire un peu de ce que dit Hurtado, dans son gros pavé, le Seigneur Jésus-Christ. Il semble bien que on ait là, de la part de Jean, une méditation sur le Jean, je dis l'évangéliste, hein, le verset d'Isaïe 42, 8, dans la Septante, dans le texte grec, mais c'est pareil dans le texte hébreu. Il est certain, de toute façon, ça tout le monde le reconnaît, que l'évangile de Jean médite beaucoup les chapitres 40 à 48 d'Isaïe, le deuxième Isaïe. Ça, c'est clair que c'est sans arrêt à l'arrière-plan. Mais là, on a un verset qui est très présent à l'arrière-plan, qui est peut-être aussi un verset sur lequel Paul a médité, parce que Jean est proche de Paul sur plein de points, et qui est le suivant. Moi, je suis le Seigneur Dieu, c'est mon nom. Le deuxième Isaïe martèle, moi je suis Dieu, il n'y a pas d'autre, etc. Moi je suis le Seigneur Dieu, c'est mon nom, Je n'ai donné ma gloire à aucun autre. Je n'ai donné ma gloire à aucun autre. Je mets en parallèle avec ça la phrase qui ouvre, enfin, très tôt dans l'évangile de Jean, Jésus a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, la gloire de qui? Celle de Jésus ou celle de Dieu? Paul était plus prudent. C'est bien avant Jean, hein? Jean, ça doit être dans les années 80, 90, 100. Paul, il est mort dans les années 60. Dieu a donné, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire son nom à lui, c'est quand même déjà très fort, afin que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu. On est déjà dans cette gloire. Or, au deuxième siècle, on a un des tout premiers pères de l'Église, le philosophe Justin, qui écrit à Rome, qui se fait une apologie du christianisme dans un débat, dans un dialogue avec le juif Tryphon qui accuse les chrétiens de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi et de blasphémer. Et donc Justin va défendre la foi chrétienne dans ce dialogue avec Tryphon. Or, il y a tout un débat autour de ce verset. Et le débat est très éclairant pour ce que font et Paul et surtout Jean. C'est Tryphon dit, moi je suis le Seigneur Dieu, c'est mon nom. Dit le Seigneur, je n'ai donné ma gloire à aucun autre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous nous racontez d'un deuxième, le Fils, qui a la gloire du Père? Il n'a donné sa gloire à aucun autre. Et Justin lui répond, mais vous n'avez rien compris. Il n'a donné sa gloire, je n'ai donné ma gloire à aucun autre qu'au Fils. Vous voyez le... Qu'à lui, voilà. À lui seul, j'ai donné ma gloire. Voilà le débat. Mais on voit bien que l'évangile de Jean fait passer au fond, ce verset, un partage de la gloire. Pour moi, c'est un éclairage, en tout cas moi, ça m'a éclairé de réfléchir à ça, sur au fond ce que c'est que cette gloire peut-être, cette gloire qui est au fond qui passe du Père au Fils et qui ensuite va passer aux disciples. Hein. C'est probablement la gloire, c'est quoi? En grec, c'est la rumeur d'abord, la renommée de quelqu'un. Après, ça devient son rayonnement. En hébreu, c'est le poids de la présence. En grec, c'est davantage le rayonnement. Est-ce que ça n'est, on ne peut pas dire que c'est la capacité justement à sortir de soi pour se partager et se donner? Cette gloire que le Père partage au Fils, ça dit quelque chose de ce que c'est Dieu, capacité à sortir de soi. Bon, moi, je vous propose ça et vous méditerez. En tout cas, dans cet évangile, on le voit bien parce que la gloire va opérer un jugement. La gloire va opérer un jugement, en tout cas un jugement s'opère, et ça s'opère entre ceux qui se referment sur leur propre gloire, que l'Évangile appelle la gloire humaine, c'est-à-dire moi et pas les autres, et ceux qui, au fond, tiennent leur gloire de Dieu. Un jugement, donc, que l'Évangéliste dit en ces termes-là, certains avaient cru, mais par peur, ils ne l'ont pas confessé, car ils avaient aimé la gloire humaine plutôt que la gloire de Dieu. Et Jésus dit un moment à la foule, comment pourriez-vous croire, vous qui tenez votre gloire les uns des autres? La gloire humaine, c'est quelque chose qu'on referme sur soi, et la foi, c'est accepter qu'on tient la gloire de Dieu. Donc il y a bien, au fond, alors je joue un peu sur les mots, mais il y a bien une résolution à prendre, et même une résolution à prendre qui est remise entre les mains du lecteur. Il doit décider. Est-ce qu'il garde sa gloire pour lui ou est-ce qu'il passe de la foi au fond au Messie d'Israël qui vient nous sauver, nous, à la reconnaissance du Fils de Dieu glorieux qu'on contemple et dont ensuite il va falloir comprendre comment au fond il a quelque chose à faire avec nous. Cette manifestation de la gloire, cette façon d'essayer de faire comprendre au lecteur ce que c'est que la gloire, c'est le rôle des signes. Les rencontres, les signes, ont pour, à mon avis, fonction d'aider le lecteur à comprendre ce qu'est cette gloire de Dieu partagée au Christ et que lui ensuite va recevoir le lecteur. Le signe, c'est quelque chose qui manifeste et qui cache en même temps, parce que ça renvoie toujours au-delà de lui-même, je veux dire, ça c'est du béaba. J'ai dit tout à l'heure, chez les synoptiques, c'était pas des signes, c'était des actes de puissance ou des miracles qui supposent la foi. Chez Jean, C'est effectivement pour faire changer de niveau, passer un degré. On dit souvent qu'il y a une reprise en main ou un recadrage par quelqu'un, par un auteur ou par le disciple bien-aimé. On verra que le père, il y a un personnage ou des personnages qui font ça, des responsables de la communauté, qui recadrent une foi de la première communauté johannique et qui, à travers un certain nombre de débats, vont préciser au fond qu'il faut croire autrement. Voilà. Les sept signes manifestent au fond diverses façons de se situer dans la foi et vont faire une espèce de typologie de façon de passer de la foi au Messie d'Israël à une foi pleinement convertie. Les narratologues, ceux qui essayent de travailler le récit, et dans l'Évangile des Jean, c'est Alan Culpepper qui a beaucoup, beaucoup travaillé, qui est un peu fait peser son ombre sur tous les auteurs qui travaillent, tous les spécialistes qui se penchent sur l'Évangile de Jean. Il a fait une espèce de catalogue des réponses dans l'Évangile de Jean de l'invitation à croire depuis le refus des autorités juives ou de ceux que l'Évangile appelle les juifs, c'est difficile. Jusque à la foi exemplaire du disciple bien-aimé. Et donc après, il va classer les diverses rencontres comme diverses étapes dans un progrès de la foi. En réalité, à mon avis, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc moi, je vous propose un peu autre chose. Je considère qu'il y a un encadrement de la série des signes par la foi parfaite des femmes. Parce que Culpepper, il oublie complètement les femmes. Un peu la Samaritaine qui pointe son nez à un moment donné, mais il a tort. L'encadrement est le suivant. À Cana, vous avez la mère de Jésus, qui a une foi totale, qui provoque le signe. C'est elle qui met les choses en route. Et donc la vie ensuite donnée en plénitude et la gloire avec les jarres et l'image des jarres pleines de vin et des noces et de la joie partagée. Voilà. Elle leur dit, faites ce qu'il vous dira. Qui se débrouille. À la fin des signes, le dernier, c'est celui du relèvement de Lazare. Et là, Jésus rencontre Marthe, puis Marie. Et le dialogue avec chacune d'elles est une invitation, au fond, à passer à justement une foi qui traverse la mort. Puisque les deux femmes, l'une après l'autre, lui disent, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, mais je suis, moi, la résurrection et la vie. Et on a une confession de foi de chacune des deux. Tu es le Christ, fils de Dieu venu dans le monde. Et Jésus lui répond, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Donc on a cette foi des femmes qui fait voir la gloire. Alors en fait, tout renvoie au signe ultime que sera l'heure de Jésus, qui est l'heure de sa mort et de son élévation justement dans la gloire. S'il y a une progression, c'est bien au fond que tout renvoie à l'heure de la passion et de la mort, et de la mort de Jésus comme au fond déjà la glorification, déjà la présence dans la gloire, déjà celui qui est sur la croix, c'est celui qui est élevé, intronisé, utilisez l'image que vous voulez, en Dieu. Donc on va avoir aussi comme thème dans cet évangile, vous voyez qu'on suit les mots, j'essaye de suivre le fil rouge des mots tout au long de l'évangile, les signes, la gloire et maintenant l'heure. C'est ça qui est tissé sans arrêt. Donc le signe ultime, ça sera l'heure. L'heure, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent chez Jean de ce qui chez Paul s'appelle le kairos, c'est-à-dire l'occasion, le bon moment, le moment à saisir. Ça dit aussi le moment où les choses basculent, le moment où vraiment on passe d'un état à un autre. On passe de la mort à la vie, plutôt que de la vie à la mort. Voilà. Le problème de cette heure, c'est est-ce qu'elle est déjà là ou est-ce qu'elle n'est pas encore? Et tout l'évangile va jouer entre comme la gloire de se déjà donner ou pas encore, ça va se passer, ça s'est déjà passé, ça se relie à partir de la mémoire. À Cana, Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. N'empêche qu'il manifeste sa gloire. À la femme de Samarie, il dit, mais il le dit aussi au paralytique, l'heure vient et elle est là. Alors, elle est là ou elle n'est pas là? Voilà, elle vient ou elle est là? C'est un peu comme le royaume dans les synoptiques. Il est proche et il est là, mais bon. Au contraire, dans les débats avec ses adversaires, ceux qui ne veulent pas croire, Il a dit à deux reprises au moins, personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. L'heure est à attendre. Et au chapitre 12, donc très tôt, elle est venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et Jésus dit à ce moment-là, Père, sauve-moi de cette heure, donc c'est bien l'heure de la passion, mais c'est et de la glorification, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Vous avez donc sans arrêt ce jeu, on est dans l'heure où on n'y est pas, et quand on se ressouvient, eh bien on s'aperçoit que l'heure, elle était venue dès le début, et qu'elle n'a fait que se confirmer, se déployer tout au long de son chemin jusqu'à la fin. D'où au début du récit de la Passion, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, voilà, c'est l'heure du passage, ce qu'on va appeler l'heure de la Pâque, que Jésus reprend dans son grand discours du chapitre 17, l'heure est venue, Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, etc. Donc en fait, cette heure, elle coïncide avec la montée en puissance, la montée en violence du conflit avec les autorités du Temple. Parce que s'il y a une progression, elle est là. Elle est dans la montée en puissance du conflit qui est annoncée dès le début. Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. On annonce dès le début qu'il sera détruit. Il va mourir. Ouais. C'est dit dès le début. Ensuite, il y a le chef d'accusation qui va se présenter tout de suite. Et ce chef d'accusation, il est vraiment important et intéressant. Il est essentiellement le blasphème. Et c'est effectivement le problème que pose l'évangile au lecteur. Le lecteur, qui sont là les Juifs en présence, c'est, mais en fait, cet homme-là blasphème parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu. Cette accusation-là, elle revient au moins 3 ou 4 fois dans le texte. Il se fait lui-même l'égal de Dieu. Alors, où est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est dans le bithéisme? Est-ce qu'on est dans... Voilà. Le long débat avec les pharisiens au chapitre 8, où déjà aussi tout est dit, se termine, et ça se reproduira encore au chapitre 10, par ils prirent des pierres pour le lui jeter, donc lapidation, il y a au moins 2 ou 3 fois tentative de lapidation, mais Jésus se cacha et sortit du temple parce que son heure n'était pas encore venue. Vous voyez qu'en même temps, il y a quelque chose qui monte en puissance. La menace est de plus en plus grande à 2 ou 3 reprises, et puis Jésus doit se cacher pour monter à Jérusalem au chapitre 7, au chapitre 10, etc. Et quand on débouche au chapitre 11 sur la mort de Lazare, on est vraiment dans l'anticipation de la passion et de la mort de Jésus. Donc la menace est arrivée à son terme. Voilà, je m'arrête là-dessus et je voudrais maintenant reprendre un peu tout ça qui est quand même, sont quand même des traversées de termes, hein, les signes, l'heure, la gloire, la menace aussi qui monte avec l'accusation de blasphème, en essayant de vous montrer comment tout au long de l'évangile, ce chemin d'explicitation de l'identité de Jésus, qui est aussi un chemin vers la foi pour le disciple, est accompagné par des voix que j'appelle des voix off, des commentaires, l'évangéliste, la communauté, ceux qui se souviennent, etc., qui accompagnent le lecteur et le font avancer avec eux. Quand vous le lirez, vous verrez que c'est un texte où on a sans arrêt des interventions, des coutures, des reprises incessantes qui font sentir la présence d'un ou de plusieurs auteurs, d'un ou de plusieurs, on va dire, évangélistes, prédicateurs, qui invitent la communauté justement à ce chemin de foi vers une foi dans un Jésus, fils de Dieu, parole même de Dieu. Le prologue et l'épilogue servent chaque fois à aller plus loin dans l'approfondissement de la christologie pour le prologue, de le rapport à l'Église pour l'épilogue. Mais entre les deux, tout le long, vous avez des confessions de foi, des explicitations. Nous disons ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu. Nous nous souvenons de ce que nous avons vu et maintenant, lorsqu'ils se souviennent, ils peuvent dire. Voilà, il y a des traces constantes d'une remémoration et ça, c'est considéré comme l'œuvre de l'esprit. Je ne vais pas beaucoup vous faire travailler sur l'esprit chez Jean parce que voilà, on ne peut pas tout faire. On pourrait aussi relire tout l'évangile à travers ce thème-là. Mais au fond, le thème de la mémoire et de cette mémoire qui provoque des commentaires permanents, c'est le thème de la présence de l'esprit. Parce que c'est ça l'œuvre de l'esprit. Lorsqu'il ressuscita des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit, et ils crurent. Et Jésus lui-même leur dit, c'est le paraclet, l'esprit de consolation, le défenseur, il vaut mieux dire le défenseur, c'est l'avocat de la défense, vous fera ressouvenir tout ce qui est souvenir et mémoire. Et donc tout au long, c'est l'œuvre de l'esprit. Et c'est bien ça, la double signature de ce texte, à la fin du chapitre 20 et à la fin du chapitre 21, on voit bien qu'il y a des gens qui opèrent pour que une transmission de ce qui a été vécu, de ce qui a été médité, de ce qui est dit, se mettent en marche, et on a vraiment, je crois, à la fin du chapitre 20 et à la fin du chapitre 21, des affirmations qui sont la tradition en marche. C'est comme ça que ça se transmet. Voilà. Jésus a opéré bien d'autres signes, ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et ça doit se reproduire. Et à la fin du chapitre 21, ça se reproduit. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Nous savons que son témoignage est véridique. Ça, c'est le disciple bien-aimé. Jésus a fait bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, je pense que le monde entier ne pourrait contenir les livres, etc., etc. Voilà. Cette œuvre de mémoire qui est l'œuvre de l'esprit et qui me fait dire qu'il y a vraiment dans cet évangile une trajectoire. Une trajectoire qui peut être celle d'une mise par écrit et de reprise incessante de cet écrit au cours du siècle. De toute façon, il fallait que je vous en parle à un moment ou à un autre, alors je vous en parle maintenant. Qui a écrit l'évangile? Qui est l'évangéliste? Vous allez me répondre, évangile selon Jean, c'est Jean le fils de Zébédée. Personne n'en croit rien. Personne n'en croit rien. C'est un évangile qui est mis sous le patronage de Jean, le disciple de Jésus, appelé avec Pierre et André, avec Jacques, son frère, etc., le fils de Zébédée. Et effectivement, ce disciple Jean, le fils de Zébédée, il y a des témoins de ce qu'il a dit, du fait qu'il avait effectivement un groupe de disciples, et ces témoins sont au début du deuxième siècle, Papias et Polycarpe. Polycarpe dont on a la lettre, Papias qui est cité à la fin du siècle, du deuxième siècle par Irénée. Ils ont connu Jean le fils de Zébédée. Ils ne disent jamais qu'il a écrit un évangile, mais qu'il a transmis la parole. Donc on va se situer dans ce groupe-là qui est a démarré autour de lui et que probablement dans ces eaux-là, si on peut dire, que se sont forgés des récits de miracles, de signes, le récit de la Passion certainement avec d'autres parallèles à d'autres évangélistes et à d'autres témoins, et puis des enseignements qui pourront donner après des discours. À un moment donné dans cette communauté, et probablement assez tard, probablement dans les années 50-60, il a dû se détacher une figure très forte. On va considérer que c'est celui qui est appelé à la fin de l'évangile, hein, parce que ça n'apparaît que pour Lazare et que dans les chapitres 18, 19, 20, qui est appelé le disciple bien-aimé, qui est une figure de la proximité, d'une intimité avec Jésus. On dit toujours que Pierre, c'est le pouvoir et l'institution, et que Jean, c'est le cœur à cœur. Moi, ouais, je veux bien. En tout cas, c'est un théologien. Sûrement de haut vol, disciple bien-aimé. Et c'est lui, au fond, qui a certainement fait passer la petite communauté à cette méditation sur la figure de Jésus comme, au fond, le Fils en vis-à-vis avec le Père égal au Père, et il faut méditer ça. Il semble bien, je vous dis ce que disent actuellement les spécialistes, hein. Je crois que ce n'est pas déraisonnable. Il semble bien qu'un évangéliste, le disciple du disciple bien-aimé, organise à un moment donné un texte centré sur la croix et donc sur la passion, comme élévation dans la gloire, en ordonnant tout le matériau que la communauté johannique avait engrangé, les récits des signes, les enseignements avec les discours qui portent certainement un peu la patte du disciple bien-aimé, et puis le récit de la passion. Et à travers tout ça, on a ensuite des reprises constantes, ou en même temps, des réécritures de passages ou de l'ensemble dues aux conflits successifs. On voit bien que dans l'Évangile, il y a des conflits successifs. Un conflit au début avec les disciples de Jean le Baptiste. Ça, c'est vite réglé. Jean baptisait dans l'eau, Jésus lui baptisera dans l'esprit. Un conflit permanent avec les Juifs. Et là, je vous alerte sur la difficulté de cette figure dans l'évangile de Jean des Juifs. Grosse difficulté parce que, ils apparaissent un peu comme l'ennemi. C'est la figure de l'adversaire. Des analyses un peu plus fines ont conduit les traducteurs de la Tobe en 2010 à distinguer les différents groupes qu'il y a sous cette appellation les Juifs, notamment les autorités juives, qui sont les véritables adversaires qui finissent par conduire Jésus devant Pilate et donc à mort, les Judéens, par opposition aux Galiléens et même aux Samaritains, hein, quand la femme de Samarie dit le salut vient des Juifs. Est-ce qu'elle dit qu'il vient des Juifs ou bien des Judéens? On ne sait pas. C'est possible. Et puis, les Juifs, en ce sens que c'est au fond l'ensemble hein, de ceux qui ont la religion du Dieu unique et la loi de Moïse. Il y a au moins ces trois sens, mais dans l'évangile de Jean, c'est un seul mot, les Juifs, et ça a fini par fabriquer la figure de l'adversaire. Et cette façon de faire, de donner une seule appellation à tout ça, a beaucoup joué dans l'anti-judaïsme chrétien. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça a beaucoup joué, comme certains passages de Paul, alors qu'il était juif jusqu'au bout, et que tous ceux dont on a parlé là dans l'évangile de Jean sont des juifs. Mais c'est une figure littéraire qui a ensuite donné lieu à des développements anti-juifs. Et finalement, il y a l'encadrement tardif, voilà pour la trajectoire de l'évangile. Cet évangile met en. Alors, ces gens qui écrivent l'évangile, voilà, on va l'appeler l'évangéliste et puis ça sera bouclé, met en œuvre des moyens littéraires pour faire passer, pour restructurer la foi de la communauté, pour passer de la foi en Jésus-Christ Messie à la foi en Jésus, Fils de Dieu envoyé du Père, incarné dans la chair, de Jésus-Christ à la parole préexistante de Dieu. Il y a quand même un gap, hein. Il y a trois moyens littéraires que vous allez travailler de près: le malentendu, l'ironie, le langage symbolique, et j'en ajouterai un quatrième, ça fera une quatrième partie. Le malentendu, une parole de Jésus comprise selon des catégories habituelles, on va dire mondaines, matérielles, puis reformulée et renvoyée à un autre niveau. Au fait, il y a un malentendu intérieur qui met en débat la notion dans la tête du lecteur. Avec Nicodème, c'est clair. Jésus lui dit, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né. Alors, s'il n'est pas né avec un mot grec, anoten, qui veut dire soit à nouveau, soit d'en haut. Est-ce qu'il faut naître d'en haut ou est-ce qu'il faut naître à nouveau? Et Nicodème va dire, mais on ne peut pas naître à nouveau, ça ne veut rien dire. On ne peut pas recommencer à rentrer dans le ventre de sa mère. Mais c'est peut-être pas idiot non plus de penser que cette naissance d'en haut est une naissance à nouveau. Ce sera votre travail à vous d'en débattre. Même malentendu avec la femme de Samarie. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, alors donne-en-moi tout de suite, comme ça j'aurai plus besoin de puiser. Voilà, même malentendu pour le discours sur le pain de vie. Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger, même à croquer? Il y a des passages où on est à la limite d'une description cannibale, et ça a été dit, hein. Jésus qui dit aux pharisiens, Abraham, votre père, a exulté de voir mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Et les autres lui répondent, t'as pas 50 ans et t'as vu Abraham. Bon, voilà. Lazare, mon ami, notre ami, s'est endormi, mais j'irai le réveiller. J'irai le réveiller de son sommeil. Et les disciples disent, dans ce cas-là, c'est qu'il n'est pas mort. Voilà, donc, il faut entendre les choses de deux façons, il y a ce débat entre chacun. Ce malentendu débouche bien sûr sur l'ironie, ça va ensemble, qui crée. Alors, ça fait avancer le lecteur, parce qu'on a mis le lecteur en débat. Et ensuite, on va le rendre complice. Le deuxième point, c'est une fois que vous avez mis le lecteur mal à l'aise, c'est qu'il faut qu'il devienne complice de l'auteur, parce que l'auteur lui montre que oui, ils n'ont rien compris, mais toi, tu comprends à un autre niveau, tu es beaucoup plus intelligent. Voilà. Ça, c'est le but de l'ironie, c'est faire du lecteur un complice ou un disciple même autorisé. Jésus dit à Nicodème, tu es maître en Israël et tu n'as pas connaissance de ces choses. Ben, le lecteur, lui, il a compris, hein. On dit à Jésus, serais-tu plus grand que notre père Jacob? Dit la Samaritaine. Bien sûr qu'il est plus grand que le père Jacob. Voilà. Le pain de vie, c'est pareil. L'ironie triomphe avec l'aveugle-né. C'est l'aveugle qui manie l'ironie. Quand il dit aux pharisiens qui lui posent des questions et qui veulent savoir, mais enfin, qui il est, etc. Parce que vous voudriez vous aussi devenir ses disciples. Et les autres partent en disant, mais est-ce que nous serions des aveugles, nous aussi? Donc tout le monde, on est tout le temps à deux ou trois niveaux. Et donc le lecteur qui comprend se sent très intelligent. Caïphe, lorsqu'il s'agit d'arrêter Jésus dès le chapitre 11, qui a cette parole très juste politiquement, c'est vrai, il vaut mieux pour tous qu'un seul meure, pour tout le peuple, et toute la nation ne périsse pas. Il a très bien compris qu'il vaut mieux mettre celui-là à mort plutôt qu'un soulèvement qui ferait intervenir la légion romaine et ferait des centaines de morts. En même temps, il est évident qu'à un autre niveau, il vaut mieux pour tous qu'un seul meure, pour tout le peuple. C'est bien l'idée qu'il est mort pour tous et d'une certaine façon pour réconcilier ce monde avec Dieu, etc. Voilà. Il y a des jeux de mots aussi dans le récit de la Passion, dans le récit de la rencontre avec Pilate, c'est très présent. Pilate qui fait sortir Jésus, et là il y a un verbe grec qui dit soit Pilate s'assoit, ou s'assit, c'est au passé, sur la tribune, soit il fait asseoir Jésus sur la tribune. C'est-à-dire que Jésus est installé en juge, c'est lui qui juge. Et au fond, dans tout le dialogue avec Pilate, c'est lui le juge. Il y a aussi la foule qui crie, enlève, un mot grec qui veut dire à mort, mais c'est le mot enlève, comme on enlève son grabat, comme on le prend. Crucifie-le, mais le mot veut dire aussi élève. Donc la foule dit aussi élève-le. Voilà. Toutes sortes de jeux de mots ironiques. Et puis, si nous avançons, et j'en ai fait une dernière partie, le vocabulaire symbolique. Il y a un vocabulaire propre à l'évangile qui dessine en fait un monde avec des oppositions qui ne sont pas chez les synoptiques, aimer, haïr, ténèbres, lumière, mensonge, vérité, avec l'impression d'un dualisme. Hein. Le monde et puis pas ce monde-ci, l'autre. Connaître, ignorer, la vie, la mort, témoigner, juger, voilà. Tout un vocabulaire et notamment la présence de réalités du quotidien, qui sont d'ailleurs souvent reprises de l'Écriture, hein. Derrière, il y a toute l'Écriture, tout l'Ancien Testament qui est là, mais qui sont chargées déjà dans l'Écriture d'un symbolisme très riche et que Jésus va reprendre. L'eau, l'eau vive, le pain, la lumière, la porte, le berger, le chemin, la voie, etc. Hein, la vie. Or, c'est employé dans l'évangile de Jean avec un modèle répétitif qui est un modèle métaphorique. Moi, je suis. C'est une métaphore. Moi, je suis le pain. Moi, je suis la lumière. Moi, je suis la porte. Moi, je suis le berger. Bien sûr que il n'est pas tout ça. Y a une dimension poétique là. Si y a métaphore, c'est une dimension poétique, mais ça dit une identité qui interroge et qui interroge le lecteur. Alors, ces métaphores. À mon avis, ça, je le dis parce que c'est pas toujours dit dans les commentaires, je crois qu'elles ont une double richesse. D'abord, c'est leur diversité et leur pluralité. C'est pas pareil de dire je suis la vigne et de dire je suis le pain, de dire je suis la voie et de dire je suis la vie, de dire je suis la vérité et je suis le bon berger. Mais vous voyez que c'est une façon de dire qu'il n'y a pas possibilité, elles ne cherchent pas à définir pleinement. Elles ouvrent simplement chaque fois une petite fenêtre, un espace poétique pour l'imagination du lecteur ou son imaginaire essayer de dire quelque chose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je crois que ça, c'est important, elles interdisent une dualité radicale. L'évangile de Jean donne parfois l'impression, et moi je l'ai souvent eu, qu'on est dans un dualisme, dans le dualisme qui sera celui triomphant de la gnose au IIe siècle. Et qui mobilisera les pères de l'Église comme Justin, Irénée et d'autres pour sortir le christianisme de ce dualisme gnostique où il y a le monde mauvais et l'autre monde, le ciel, où nous serons tous dans la gloire et heureux. Le problème, c'est que ça, c'est resté dans les têtes chrétiennes longtemps, si ça n'y est pas encore. Or, je crois vraiment que ces métaphores interdisent ça, parce qu'elles n'opposent pas le matériel et le spirituel. Elles ouvrent simplement l'expérience concrète sur autre chose, sur une autre dimension. L'eau, le vin de Cana fait goûter la joie des noces, ça ouvre sur autre chose. Les pains reçus ouvrent sur autre chose. Au fond, je crois que la vision du monde johannique n'est jamais vraiment dualiste, même si elle en a parfois la formulation ou les apparences. Et l'exemple le plus clair, c'est les ténèbres. Il y a vraiment l'opposition des ténèbres et de la lumière. Mais en fait, on voit bien que les ténèbres, elles ne sont ténèbres que de disparaître à cause de la lumière. C'est la présence de la lumière qui fait apparaître. ce qui n'a pas encore disparu de ténèbres. Voilà. Donc vous méditerez là-dessus et vous serez attentif à ce risque d'interpréter l'évangile de Jean selon un schéma dualiste. J'avance et je suis presque fini, je vous libère. Il y a tous ces je suis. Je suis la porte, le berger, la lumière, etc. Et puis, il y a à plusieurs endroits un je suis employé absolument, qui est très étonnant en grec, afin que vous croyiez que je suis, ego eimi. Alors, on peut traduire aussi c'est moi. Ça, c'est quand Jésus marche sur la mer, ils ne le reconnaissent pas et il leur dit c'est moi. Mais c'est pas c'est moi, c'est je suis, et c'est un emprunt très important à la Septante d'Isaïe 40-48, où c'est plus marqué encore que dans l'hébreu, même si c'est déjà présent dans l'hébreu, où Dieu, le Dieu unique, est martelé sous la forme d'affirmation, moi je suis, et il n'y en a pas d'autre. Voilà. Moi je suis, et en dehors de moi, rien. Eh bien, c'est ce je suis que Jésus de Jean reprend, reprenant donc la déclaration même et s'appropriant au fond le titre, la façon d'être du Dieu unique d'Isaïe. Alors il y a d'autres expressions qui vont dans ce sens-là. Moi et le Père, nous sommes un. Alors on dit c'est un neutre, d'accord. Qu'il soit un comme nous sommes un. Que comprendre? Eh bien, ceux qui entouraient ont compris, je redis comme tout à l'heure, un blasphème. Il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu. Toi, tu es un homme et tu te fais toi-même Dieu. Alors, avec ce bémol que Jésus garde toujours et l'Évangile montre toujours la dualité. Il ne revendique jamais la place du Père. Il tient tout de lui et c'est Dieu qui est vrai et qui témoigne en sa faveur. Et au fond, ce qui se dessine dans l'Évangile, c'est qu'il est l'envoyé. Alors, on va dire cette christologie, cette façon de parler du Christ comme l'envoyé de Dieu, elle est très manifeste dans l'évangile de Jean par la surabondance du vocabulaire de l'envoi. Il y a deux verbes, le verbe de l'apostolat qui a donné l'apôtre et le verbe de pempo qui a donné les pompes. Les pompes, c'est d'abord les processions. Les deux verbes désignent dans le vocabulaire grec courant l'envoi d'un plénipotentiaire avec tous les pouvoirs de l'envoyeur. Il a tous les pouvoirs, il le représente absolument, mais en même temps, il s'efface devant lui. C'est-à-dire, non seulement il représente, mais il incarne devant ceux qui sont là l'envoyeur. En même temps, il peut disparaître, c'est l'envoyeur qui compte. En même temps, cette idée de l'envoyé instaure quelque chose de dynamique, presque une identité dynamique qui se poursuit dans l'histoire et dans le monde. Parce que Jean-Baptiste est déjà dit envoyé. Et après Jean-Baptiste, et avec lui, Jésus est l'envoyé du Père par excellence. Mais lui-même enverra à ses disciples l'Esprit Paraclet. Et puis, alors si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas chez vous. Et puis lui aussi, dans le chapitre 17, dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Voilà. C'est-à-dire que c'est une identité qui se transmet, et c'est au fond cette identité de la gloire qui se transmet. Je t'ai glorifié, glorifie-moi, et eux, je les glorifierai. C'est ça que Jésus dit. Je les glorifierai, et ils sont envoyés dans le monde. Alors, je termine là-dessus. Dernière difficulté, pour moi encore grande, je vous aurais dit toutes mes difficultés, l'ambiguïté du monde dans l'évangile de Jean. C'est cette ambiguïté du monde qui fait souvent croire que c'est une vision dualiste des choses. Ce monde est mauvais. Jésus s'en va vers le Père qui est le monde du bien et de la bonté. Or, ce n'est pas vrai. Il faut toujours se souvenir de la première affirmation dans le chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et ça, Jésus le reprend. Hein. Moi, je ne suis pas venu pour juger, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Ce que l'Évangile met en place, c'est que devant la lumière, eh bien, le mal présent dans le monde devient évidemment insupportable, incompatible. D'où le monde les hait, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Mais tout cela, c'est pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un jugement qui s'opère. Chacun est mis à chaque instant devant un choix, et ce choix va dans le récit de la Passion être dit très clair devant la croix avec la citation de Zacharie, ils tourneront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. C'est-à-dire, la question est toujours la même. Choisissez. Choisissez la vie et vous vivrez. C'est la question de Deutéronome. Avec dans l'évangile de Jean, cette idée que ce qu'on choisit de vivre, c'est une vie éternelle. Ce n'est pas la vie éternelle. Là aussi, il faut se méfier. On oppose toujours la vie et la vie éternelle. Mais dans l'évangile de Jean, la vie éternelle a commencé. C'est la foi. Au fond, Jésus meurt et il va déposer quoi? Alors, il faut faire attention au mot vie, parce que le français n'en a qu'un et le grec en a deux, au moins. Trois même. Il va déposer son souffle de vie comme il dépose ses vêtements pour laver les pieds. La vie, c'est ce qui se dépose et ce qui se donne. Voilà. La vie, souffle de vie, la vie psyché, c'est ce qu'on dépose, on meurt et on la donne. Mais c'est pour faire entrer avec lui dans la fameuse vie Zoé éternelle qui ne s'épuise pas, mais qui se vit dans ce monde-là, qui commence là. J'ai fini. J'ai juste une citation pour finir que j'ai trouvée tout récemment en relisant un vieux livre. Vous voyez, c'est 1980, je ne peux pas dire la date, moi, mais 80 quelque chose. Bon, la Pâque du Christ, mystère du salut, c'est des mélanges offerts au grand exégète et théologien François-Xavier Durruel, qu'on ne lit pas assez. C'est Pierre Grelot qui dit: « Le Christ en gloire, dans l'évangile de Jean, le Christ en gloire transparaît constamment sous les traits de Jésus de Nazareth comme une figure de vitrail que la lumière de la foi vient illuminer. » Je trouve que ça dit très très bien quelque chose de cette fascination que peut exercer l'évangile de Jean et de sa difficulté. Parce qu'une fois qu'on est ébloui, ben après, il faut quand même essayer de comprendre ce qui vous a ébloui. Voilà, j'arrête là et je vous rends la parole. J'ai dépassé l'heure, c'est pas bien. Nous avons 10 minutes encore pour que vous sortiez de l'évangile. On n'en sort pas, hein, c'est très difficile. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, courageusement, vous ouvrez votre micro et vous vous manifestez. Clac. Clac. Non, je ne vois pas de micro ouvert.
Oui, est-ce que Guy Jean-Morel,
Oui?
est-ce
Je
que
vous
vous pourriez
écoute.
redéfinir la gloire, s'il vous plaît?
Non. Non, c'est trop dur.
Merci.
Bon, j'ai dit que c'était quelque chose que qui compliquait pour moi. Je procède en trois temps. Premièrement, la gloire, c'est le kavod de l'hébreu, où c'est le poids. Ça veut dire le poids, c'est le poids de la présence de Dieu. Voilà, quelque chose de massif qui s'impose, qu'on ne voit pas nécessairement. En même temps, ce Dieu au Sinaï, il se manifeste, on le voit pas, mais il y a des éclairs, il y a du feu, c'est aussi quelque chose qui rayonne. Quand on passe au grec, et Jean lit du grec, et écrit du grec, quand on passe au grec, c'est le mot doxa qui d'abord veut dire la réputation de quelqu'un. Mais la réputation au sens du 17e, et ça devient la gloire au sens du 17e. Ma gloire, ma réputation. Et puis en grec même, ça prend vite une signification de rayonnement. Alors, rayonnement intérieur, mais aussi rayonnement extérieur, etc. Voilà. Et du coup, dans cette idée que la gloire, dans l'évangile de Jean, est ce que Dieu donne au Fils, est ce que Jésus le Fils peut partager aux hommes, je me dis, est-ce que la gloire, ce rayonnement, c'est pas cette capacité qui dit quelque chose de Dieu, en ce sens qu'il est celui qui sort sans arrêt de lui-même, qui se partage à d'autres, à un autre. Alors, je ne veux pas faire une théologie trinitaire, mais pour moi, ça a éclairé un peu les choses, si on peut dire. Le principe de l'évangile de Jean, c'est de vous faire baigner là-dedans. Et vous baignez tellement dedans qu'à la fin, vous avez l'impression que vous avez compris. Puis certainement, vous dites, mais non, en fait, j'ai rien compris. On essaie de prendre la distance. Et puis, en replongeant, on voit que, mais si, ça veut dire quelque chose. C'est un peu une aventure. Alors, je ne sais pas si je vous ai aidé à redéfinir la gloire.
On va continuer, essayer de comprendre.
Voudrais poser une question. Pour moi,
Oui.
il y a une difficulté, encore une. Le Père et moi, nous sommes un. et ailleurs, je suis l'envoyé.
Oui.
Alors, on est un ou on est envoyé?
Eh bien, vous leur demanderez, hein. Alors, le un ne veut jamais dire une seule personne. Parce que c'est ei, c'est pas le un masculin. En français, on ne peut pas faire. Mais en grec, c'est très clair. Si vous avez une seule personne, l'unique, c'est eis. Et ce n'est pas ça. C'est le un neutre qui dit en fait une même réalité. Donc, après, il y aura des réflexes. Il y aura nécessairement dans la pensée grecque, avec les outils conceptuels que les pères de l'Église développeront, cette recherche pour dire, pas une seule personne, il est une autre personne, mais il y a une même réalité. Voilà. Et ça se base sur ces affirmations de l'évangile de Jean, où en grec, on distingue très bien le un seul, une seule personne au masculin ou au féminin, mais ça se dirait autrement, et ce qui est au neutre, qui veut dire quand même l'appartenance à une même réalité. Ça vous précise un peu les choses? Ça
Merci.
simplifie pas complètement le problème. Hein.
Non,
Et ça...
mais on a compris que c'était compliqué.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est jamais une prétention à prendre la place de Dieu ou à être un autre Dieu à côté. Voilà.
Oui, merci.
C'est toujours recevoir de. Voilà. Mais tout recevoir. Recevoir de lui, mais tout recevoir. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou malaise dans cette affaire?
Oui.
Alors,
Moi, j'ai toujours pas compris qui avait écrit cet évangile.
ben moi non plus. On ne sait pas. Alors, la vérité, c'est bien de poser la question. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et il y a eu certainement plusieurs morceaux et plusieurs couches. C'est un processus sûrement long, avec. C'est jamais une communauté. Quand on vous dit c'est la communauté qui a écrit, à mon avis, c'est un peu se moquer du monde. Je vois pas avec quelle main la communauté écrirait. Hein? Voilà, il y a quelqu'un qui écrit. Mais il y a sûrement eu plusieurs personnes et plusieurs étapes dans la reprise et le remaniement de l'évangile. Ça, au moins, c'est sûr. Et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. D'ailleurs, vous, de plus en plus, ceux qui sont spécialistes de l'évangile de Jean parlent de trajectoire. Voyez, avec des éléments recueillis, transmis oralement, un jour mis par écrit, probablement par celui qu'on appelle l'évangéliste, une organisation qui va vers la passion, et peut-être une insertion là-dedans d'un certain nombre de discours qui peuvent avoir été mis par écrit par le disciple bien-aimé, et peut-être pas nécessairement quand même par la même personne. Le chapitre 17 est peut-être d'un autre main encore, et ensuite encadré. Peut-être aussi par deux mains différentes, le prologue avant, l'épilogue à la fin. Donc, on parle de trajectoire parce qu'on pense qu'il y a eu plusieurs remaniements et moments forts dans la constitution de cet évangile. Voilà, je ne vous ai pas éclairé. Je pense que ce qu'on faut bien se dire, ce n'est pas Jean le fils de Zébédée, même si c'est sous son patronage, si c'est sa communauté qui a démarré comme ça. Celui qu'on appelle le disciple bien-aimé, ça a probablement pris la forme d'un personnage majeur au point de vue de la pensée, de l'écriture, mais c'est aussi devenu une figure de proximité avec Jésus et de capacité révélatoire. Donc il y a ça dans le disciple bien-aimé. Hein. Il y a certainement eu un personnage qui a fait basculer la théologie, la christologie davantage vers une proximité avec Dieu importante. Et puis, un ou deux personnages qui ont repris l'écriture de l'ensemble. Vous verrez bien, quand on a la discussion avec Nicodème, bon, on peut avoir un récit de discussion premier, et ensuite, on fait dire à Jésus, nous savons et nous croyons que. C'est pas lui qui dit nous, il y a bien quelqu'un là qui dit, voilà, à un moment donné, on va expliciter, et donc nous savons et nous croyons que. Voilà. Donc, il faut accepter plusieurs remaniements à partir de blocs qui se sont constitués peu à peu. Et de ne pas savoir. C'est pas grave. Ça fait un évangile compliqué et ça fait cette impression que mais tout a déjà été dit. Quand vous lisez le chapitre 5, tout est déjà dit. Et l'unité avec le Père, elle est dite très tôt. Hein, très tôt, dans le chapitre 7 aussi. Vous voyez? Tout est dit très tôt et puis repris, remâché, remouliné.
Jean l'Ancien.
Comment?
Jean l'Ancien, dont on parle aussi, ce serait qui?
Alors, il y a aussi l'ancien, c'est le presbyte, hein, parce qu'en grec, presbyte, on dit Jean l'Ancien ou Jean le presbyte.
Oui.
Presbyte, ça veut dire ancien. On a aussi considéré qu'il y avait dans l'affaire, peut-être issu de cette communauté, celui qui a écrit l'Apocalypse, qui peut avoir des accointances et des rapports avec cette communauté sans être certainement le même, ni un de ceux qui a écrit l'Évangile. Jean l'Ancien, le presbyte, serait celui qui a écrit l'Apocalypse. Parce que il est censé avoir vécu très longtemps et être mort très tard à Patmos sur son île avec des tas de visions. Ça, personne ne l'a jamais vérifié. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un personnage dont on parle au IIe siècle, qui est Jean l'Ancien et qui pourrait être l'auteur de l'Apocalypse. Et qui a des accointances, des relations, une sensibilité, un peu de vocabulaire en lien avec la communauté de Jean.
Merci.
Bon, j'espère ne pas vous avoir trop découragé.
Non. Non.
Non,
Un
d'accord?
peu plus.
Voilà. Non, non, il faut plonger dedans et puis vous dire qu'il y a. Faut pas vouloir tout maîtriser, c'est clair. Alors c'est vrai aussi des synoptiques, hein. Mais là c'est particulièrement clair qu'on maîtrise pas. Je sais bien que ma présentation a quelque chose d'un peu brouillon, mais comment dire, et surtout de revenir toujours sur la même chose. Mais c'est aussi que je me dis il faut accepter ça quand on entre dans cet évangile. Voilà. C'est que ça va répéter autrement, mais ça va répéter. Est-ce qu'il y a encore des questions? Eh bien, dans ces conditions, je vais vous laisser. Je vais arrêter l'enregistrement. Il faut que je retrouve, ce n'est pas évident. Hein.
Eh bien, merci beaucoup.